vendredi 10 mai. Ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Un accident impliquant une moto s'est produit vers 7h15 ce matin sur l'autoroute transcanadienne en direction est, dans le secteur de Kirkland, dans l'ouest de l'île de Montréal, près de la sortie Morgan. Le motocycliste âgé dans la vingtaine est dans un état critique. Il aurait percuté l'arrière d'un tracteur qui circulait à basse vitesse. L'enquête se poursuit. À Montréal, un quinquagénaire lutte pour sa vie après avoir été poignardé au square Cabot la nuit dernière. L'homme de 52 ans aurait été agressé à l'arme blanche lors d'un conflit qui aurait eu lieu vers 3 heures dans le parc situé près de la rue Sainte-Catherine et de l'avenue Atwater. L'enquête est toujours en cours dans ce dossier, comme l'indique l'agente Caroline Chevrefils, qui est porte-parole pour le service de police de la ville de Montréal.
Selon les premières informations, un conflit aurait dégénéré dans le parc du square Cabot entre la victime et possiblement deux suspects. Et c'est lors du conflit que la victime aurait été blessée avec une arme blanche. Et par la suite, le ou les suspects ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Un périmètre a été érigé afin de protéger la scène pour les enquêteurs.
Un homme qui travaillait comme concierge au CI3S de Laval a été accusé de proxénétisme et d'agression sexuelle la semaine dernière. C'est ce qu'a appris la presse. Sa victime serait une adolescente de 14 ans qui était en fugue et qui aurait été contactée via l'application Snapchat. Serge-André Exil-Florestal, 36 ans, aurait incité la jeune fille à se prostituer à Laval et Gatineau de novembre 2023 à février 2024. Selon un communiqué de la Sûreté du Québec, le suspect a également été accusé de production de pornographie juvénile. Eh bien, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, défend le choix de la Ville de Québec pour installer le siège social de l'agence Mobilité Infra-Québec. L'agence devra mener l'analyse d'opportunités, la planification ainsi que la réalisation de projets de transport à la demande du gouvernement. Alors que les plus gros projets sont réalisés dans les rues de Montréal, la ministre Guilbeault a fait valoir sur nos ondes ce matin que ce choix ne nuirait pas au mandat de l'agence.
Ça n'a pas d'incidence sur la compétence ou l'expertise des gens qui vont être embauchés dans cette agence-là. Les sièges sociaux sont souvent à Québec. Il ne faut pas y voir là une déconnexion de notre métropole. Il y a un projet quand même aussi qu'on doit livrer à Québec. Il y a l'Est de Montréal, il y a la Rive-Sud de Montréal. Au-delà de où sont situés les bureaux, là, c'est surtout des gens qui sont habitués de faire ça et qui vont être capables de livrer. Moi, c'est ça mon obsession, là.
Dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, maintenant, l'équipe de Montréal a entrepris des séries, ces séries éliminatoires dans une défaite de 2-1 en prolongation contre l'équipe de Boston hier soir à Laval. Malgré 54 tirs imaginés, les Montréalaises n'ont pas pu venir à bout de l'équipe de Boston qui a pris les devants donc dans la série grâce à un but de Susanna Tapani en prolongation. Après la rencontre, l'attaquante Marie-Philippe Poulin dirigeait déjà son attention sur le deuxième match de la série qui aura lieu demain soir à la Place Belle.
Ça veut pas, c'est une défaite qui fait mal. Tu vas toujours gagner la première partie de la série, mais c'est ça qui est le fun. On peut revenir, c'est pas fini, puis on va se préparer, on va prendre notre temps, on va ice bat, on va recover, on va prendre du temps pour ça, puis revenir forte samedi.
Et à l'étranger, quelques 110 000 personnes ont fui la ville de Rafah, qui est sous la menace d'un assaut à grande échelle par l'armée israélienne. Selon des responsables de l'ONU, 30 000 personnes quittent la ville chaque jour vers des zones jugées moins dangereuses. Alors, la plupart de ces personnes ont déjà dû se déplacer, imaginez, à 5 ou même 6 reprises depuis le début de la guerre. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo. 7 degrés présentement sur Rimouski avec 11 au maximum au mercure aujourd'hui. Ce sera généralement ensoleillé ce soir et cette nuit 4 avec quelques nuages. Demain samedi 12 généralement ensoleillé. Pour la nuit demain 5 avec un ciel dégagé. Dimanche on annonce 11 avec du soleil. 3 pour la nuit ce sera dégagé. Lundi 14.
FM 93.
C'est le titre dans le don don.
Avec Jean-Claude Chilina.
Dans le don don. C'est le titre.
Quand le temps est venteux, ça cause de nombreux problèmes.
Ville de la Prairie, bonjour.
Bon, pouvez-vous venir me chercher? J'ai pogné dans le vent, là. Je pèse rien que 90 livres, je suis parti au vent. J'étais à Montréal, je suis rendu à la Prairie. J'ai toujours été dans le 514, puis là, je suis rendu dans le 450. Envoyez quelqu'un me chercher, je collais après un lampadaire. J'ai strappé ma gage de sacoche auto pour pas décoller, là.
Oui.
Faites ça vite, le strap de petite culotte me rentre dans le derrière.
Oh, Seigneur, ça va pas bien, votre affaire.
Bon, ben, envoyez quelqu'un, moi, je perds mes dents.
Allô?
Royaume des témoins de Jéhovah?
Oui. Mm-hmm.
Il a vanté pas mal en fin de semaine, hein?
Oui.
Ce qui fait que vous avez dû envoyer moins d'effectifs du porte-en-porte chez les gens?
Ah, peut-être, je sais pas, là, oui.
Ben, que dites-vous bien qu'il va vanter encore de même pendant les 5 prochaines années.
OK, bye.
Oui, allô?
Ouais, il a vanté en fin de semaine.
Pas mal.
C'est ça, mon couvert de poubelle est revolé chez vous à cause du vent.
Quelle place qui est tombée?
Ben non, mais hier, il était là, je passais en char, puis je suis arrivé pour le chercher un matin, puis il est plus là, fait que...
Qu'est-ce où c'est qui est tombé, en avant ou en arrière?
En arrière, dans ta cour.
Ah, oh ben, calice, là. J'ai pas vu ça
ici. L'as-tu vendu?
Malade, toi.
Mais non, mais il y a assez que tu viens de baigner chez nous quand je suis pas là, là. Je commencerais pas à me faire voler mes couverts de poubelle.
Hein?
Qu'est-ce que t'as fait avec mon couvert de
poubelle? J'ai pas ton petit couvert, mais.
C'est correct, si tu veux marcher de même cet été, mais que je fasse du charcoal, m'envoyer ma boucane chez vous.
C'est tabarnak.
Ah, m'a t'envoyé de la boucane.
OK.
Salut.
Salut.
Fix 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. C'est Fix FM 93.
Rimouski à CFX FM 93, la référence en information.
Voici Jonathan Trudeau.
Alors, la nouvelle structure, la nouvelle agence Mobilité Infra Québec, dépôt hier du projet de loi.
Oui, puis je vais insister dans mon analyse sur l'autre pan aussi, la stratégie québécoise en infrastructure, parce que c'était une grosse journée pour le gouvernement Legault hier avec le dépôt de ces deux pièces majeures-là qui pourraient vraiment porter des grands changements dans nos façons de faire des grands projets. J'ai même envie de te dire, dans notre capacité à les réaliser, ces projets-là. Donc, tu comprendras que d'emblée, j'ai un préjugé plutôt favorable au principe qui guide les deux projets de loi. Si on prend celui du transport, écoute, n'en déplaise aux fonctionnaires du ministère des Transports qui, me dit-on, sont de plus en plus heurtés par les propos de leur ministre qui, dans le fond, dit essentiellement « Mais oui, mais on n'est pas bon pour faire ce genre de projet-là. » Ben écoute, je sais que ça les heurte un peu, mais on peut pas dire qu'on est étincelant non plus. La preuve, c'est qu'on en a à peu près pas fait des projets d'envergure depuis le métro de Montréal. Et le fonctionnement actuel, c'est-à-dire d'avoir pour, au cas par cas, pour chaque projet, un bureau de projet, une structure différente, puis pas de ligne directrice, des façons de faire qui tu sais, qu'il y a pas de façon commune, etc. Ça aide pas à espérer de grandes réalisations, ça. Et là, donc, quand je vois la levée de certains boucliers, j'ai envie de dire que on n'est pas dans une dynamique d'essayer de réparer quelque chose qui fonctionne. Tu sais, les Anglais disent « If it ain't broke, don't fix it ». C'est pas le cas ici, là. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, je trouve que l'idée a du mérite d'essayer de faire quelque chose de différent. Même chose pour la stratégie sur les infrastructures, où on va tenter de simplifier le processus de soumission d'octroi de contrat. On le sait que ça nous coûte trop cher, nos projets, puis que c'est trop long. Donc, on peut pas être contre l'idée de réduire les coûts de 15 % les délais de 25 % puis c'est vrai que nos processus sont trop lourds, sont trop complexes, ça fait fuir des soumissionnaires qui trouvent que ça vaut pas la peine, que le risque est trop grand ici. Donc, je me répète, je trouve que le gouvernement a le mérite de proposer deux idées, deux petites révolutions qui font du sens. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui sont tout à fait pertinentes.
Non, mais...
Qu'il n'y a pas des débats qui sont souhaitables.
Ben, c'est parce que...
Veux-tu commencer ou je peux y aller?
Ben non, mais vas-y, je vais parler avec la ministre tantôt. C'est juste que moi, je veux bien, là, mais on rajoute une couche.
Oui.
Puis là, je vois la réaction de la Société de transport de Montréal ce matin, là, qui est pas contente, puis qui dit que c'est à la STM, par exemple, de gérer puis de développer des infrastructures, puis qu'on va leur enlever de l'expertise pour mettre... Tu sais, là, on est dans la bataille des organigrammes, là.
Oui. Hey, à ce sujet-là, je te soumets quelque chose qui m'a été mentionné cette semaine dans les discussions qui ont cours entre les villes et les sociétés de transport. Quand on parle d'optimisation en ce moment, on me dit que sur la table, là, ils en ont identifié pour 2,5 milliards d'économies sur 10 ans.
Okay.
Je trouve ça, c'est pas anodin, puis j'ai validé, puis Québec est pas au courant trop de ça, mais je sais que ça circule dans le milieu municipal. Ils pensent qu'ils seraient capables d'économiser 2,5 milliards sur 10 ans en touchant à des, on me dit, de l'optimisation structurelle, là. des volets. Non, mais tu sais, si on peut, parce que je sais que, et t'as raison, là, tu parles beaucoup de la multiplication des structures. Si on était capable de fusionner des patentes, d'enlever des couches, d'enlever des structures, je pense que ça pourrait faire du bien. J'ajoute à ça le fait que la RTM va falloir se questionner sérieusement sur son mandat avec l'ajout de Mobilité Infra-Québec. Donc, il y a plein de questions. Moi, j'ajoute également à ça, qui va travailler à Mobilité Infra-Québec? On comprend dans le projet de loi qu'on vient contourner le cadre actuel du Conseil du Trésor, donc permettre de contourner les conventions, donner des meilleurs salaires et tout ça pour attirer des fameux Top Gun. Mais est-ce qu'on va être capable de les attirer ou on va juste transférer des employés du MTQ qui vont se trouver à avoir un meilleur salaire? Ça, je pense que c'est une bonne question. L'autre question, c'est l'argent pour financer les projets, on va le prendre où? Ce matin, la presse nous parle de 5 projets de transport en commun qui auraient été identifiés, entre autres celui de Québec, celui de l'Est de Montréal, la Rive-Sud, 12 projets routiers, là on parle plus de ponts et des trucs comme ça, il y en aurait pour 67 milliards. Mais en ce moment, déjà dans le PQI, sans inclure ces projets-là, dans le programme québécois des infrastructures, on en a pour 153 milliards sur 10 ans. Et ce qui financerait ces projets-là de transport en commun, c'est ce qu'on appelle le Fonds des réseaux de transport terrestre, le FAR, et il est déjà déficitaire. Ça, c'est financé par les taxes sur l'essence et sur nos immatriculations. Or, on est dans un contexte de déficit de 11 milliards, d'un gouvernement qui dit qu'il augmentera pas davantage les taxes, qui veut même baisser les impôts. Donc, la question est pertinente. On va les payer comment, ces projets-là? Est-ce que Mobilité Infra va avoir les moyens de ses ambitions? Et je t'en rajoute une autre couche, les craintes des villes. Les craintes des villes sont légitimes. Elles veulent être consultées pour l'aménagement du territoire. Ils ont vu le projet de loi, puis là, ils ont peur de voir des factures leur être filées,
ouais,
des coûts imposés.
Moi, les villes, là, je veux bien, mais Québec leur a donné le pouvoir d'augmenter l'immatriculation.
Oui.
Et on voit là l'espèce de chantage qui se fait. Là. On pourrait vous monter ça jusqu'à 200 $. Il y a quelqu'un dans l'opposition à Québec qui disait 1000. Mais oui. Ce que je veux dire, là, c'est que les villes ne se gênent pas pour augmenter les taxes. Et on l'a vu au municipal, là, dans nos comptes de taxes foncières. Puis là, Québec, c'est white, parce qu'ils disent, ah, tu vas avoir plus d'argent, fais le ménage, ou bien je te donne le pouvoir, puis va le chercher dans la poche des gens.
Mais c'est ça, c'est il y a l'élément du financement à long terme du transport en commun, donc pour l'exploitation, le maintien du réseau. Mais là, quand on parle de Mobilité Infra-Québec, on parle du développement, si on veut. Et je comprends les villes de lever la main puis dire, est-ce qu'on peut s'assurer d'être impliqué, là? T'sais, je donne un exemple, les pylônes du REM. C'est pas nécessairement un exemple d'aménagement urbain, là, d'aménagement du territoire. Donc, les villes veulent être incluses. Moi, j'ai senti de l'ouverture dans le discours des villes hier, parce que la ministre va être là, hein, Drummondville,
oui,
cet
oui,
avant-midi,
oui.
Sommet sur le transport en commun. J'essayais de qualifier l'attitude des maires là, quand la ministre va arriver. Je te dirais qu'elle est attendue fermement avec ouverture.
Une politesse bien sentie.
Voilà. Okay. Voilà. Donc, écoute, ça, c'est Mobilité Infra-Québec. Puis je sais que le temps file, mais je veux absolument glisser un mot sur la stratégie des infrastructures parce que, si ça se trouve, c'est peut-être encore plus significatif, plus important que Mobilité Infra-Québec parce que là, on vient vraiment revoir la façon d'octroyer les contrats. Sauf que moi, j'ai une question en tête. Est-ce que c'est applicable vraiment aux grands projets? Parce qu'on dit qu'on l'a essayé pour la construction d'écoles. On a essayé les deux modèles. Le modèle en l'espèce de nouveau partenariat qui, semble-t-il, coûtait moins cher, était plus rapide que l'autre modèle pour la construction d'écoles similaires. Donc, est-ce que ça s'applique à des grands projets, des ponts, des tramways, etc.? Et l'autre question que je soulève, c'est est-ce qu'il y a un risque à trop alléger d'ouvrir la porte à davantage de collusion et de corruption? Parce que oui, on a beaucoup de mécanismes, mais il y en a qui ont été instaurés au travers des années pour essayer de nous protéger contre la collusion et la corruption. J'ai comme le feeling que dans les craintes que le Trésor avait, il y avait peut-être un peu de ça, qu'on baisse la garde. Donc, ça va être à surveiller, ça aussi, l'impact de ce projet de loi-là au cours des prochaines années.
Bon, tu parlais de grandes rencontres. Il y a le Forum des ministres de l'immigration aujourd'hui à Montréal.
Oui, et hier, le gouvernement a mis la table au maintien, même même à l'augmentation de la pression, je te dirais, qu'ils exercent sur le fédéral, particulièrement encore là au sujet des demandeurs d'asile. Ça fait l'objet du petit laïus du premier ministre dans sa rencontre désormais hebdomadaire avec les médias de la colline parlementaire. Mais le PM a aussi publié une petite vidéo très, très, très intéressante sur ses médias sociaux. Tu sais, des fois, t'as pas besoin de beaucoup de mots, de longs discours, et cette vidéo-là, il n'y a pas de mots. C'est juste un tableau dynamique du nombre total de demandeurs d'asile accueillis par province, par 100 000 habitants, OK? Et là, ils partent de janvier 2001, et l'animation, dans le fond, c'est que tu vois à chaque